RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, nous sommes en direct à la radio sur RMC, en direct à la télé sur RMC, Sport News dans l'After, l'émission qui y a dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là comme tous les dimanches, Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
L'événement ce soir dans l'After les gars, ce sont les deux équipes de France, féminine et masculine, qui se sont succédées ce week-end avec des fortunes diverses. Et on va en débattre ensemble et avec vous au 32-16 bien sûr dans quelques instants. Les Bleus hier en Turquie et les Bleus vendredi face à la Corée du Sud en attendant le match de la Norvège et d'Andorre pour les deux équipes de France qui rejouent mardi et mercredi. Également au programme ce soir, la Ligue des Nations. On parlera de la Marseillaise. Marseillaise sifflée hier en Turquie qui a enflammé les politiques aujourd'hui. Plus les drôles de dames. Ce soir, exceptionnellement à 23h, on décale notre page drôle de dames du lundi à ce soir. Pourquoi ? Parce que demain, vous le savez, c'est le match de l'After. On aura un programme spécial demain. On aura notamment Patrice Haddad demain avec nous, le président du Red Star, qui nous accueille demain. Et on fait souvent les points sur son projet à Patrice Haddad. Il sera avec nous demain. Donc les drôles de dames, c'est ce soir avec le foot européen au programme. Le 32-16 bien sûr est ouvert. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur notre appli. Gratuite RMC Sport, vous téléchargez l'appli, vous appuyez sur la petite radio en haut à droite. Vous avez en plus toutes les infos, tous les scores en temps réel. Donc faites-le, c'est gratuit. La finale de la Ligue des Nations, c'est Portugal-Pays-Bas. Morgan Mori, un but a été marqué il y a quelques instants. Morgan, salut.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gilbert. Par Gonzalo Guedes, 60e minute, but pour les Portugais, 1-0 face aux Pays-Bas dans cette finale de la Ligue des Nations. Logique, vu la tournure de cette partie, les Portugais qui ont été extrêmement dangereux pendant la première heure de cette partie. Un décalage de Bernardo Silva et l'entrée de la surface de réparation. Frappe puissance de Gonzalo Guedes qui trompe si les scènes. 1-0 pour les Portugais face aux Néerlandais. Il reste 27 minutes dans le temps réglementaire. Allez, de cette finale de la Ligue des Nations, le Portugal peut-être le premier vainqueur de cette nouvelle compétition.
Ok, à tout à l'heure, tu nous tiens au courant dès qu'il se passe quelque chose, évidemment. Il est 22h04 dans l'After. Avant de parler de l'équipe de France, on va aborder un sujet, Daniel, qui te concerne, qui concerne aussi Jérôme Rothen, suite à des propos que vous avez tenus jeudi dernier dans l'After concernant l'affaire Neymar, propos qui ont suscité beaucoup de réactions ce week-end. On va y revenir ensemble, puisque Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, chargée également de la lutte contre les discriminations, s'est émue de ses propos. Elle a tweeté aujourd'hui en expliquant qu'elle allait saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Marlène Schiappa, qui est en direct avec nous dans l'After, nous l'avons sollicité, elle a répondu à notre invitation. Bonsoir Marlène Schiappa.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Marlène Schiappa, merci d'être avec nous, content que vous soyez là pour qu'on parle ensemble quelques minutes de notre dérapage de jeudi, dérapage relatif à l'affaire Neymar. Alors, j'ai lu votre réaction, je vais commencer par m'excuser bien sûr pour ce propos, mais évidemment, que ce soit clair ce que j'ai dit sur la femme impliquée dans cette affaire, elle s'était totalement déconnectée du viol présumé. Je faisais évidemment pas du tout référence à ça. Aucun sous-entendu là-dessus, vraiment. Juste une blague déplacée avec Jérôme, comme il peut arriver qu'on en fasse dans l'After. Je tenais à ce que ce soit clair, parce que dans vos propos que j'ai lus, je voulais surtout pas, moi, apparaître comme le grand méchant loup qui sous-entend que c'est pas grave ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, puisque l'affaire est encore en cours. Voilà.
Jérôme Bretagne s'est également excusé sur Twitter aujourd'hui pour ses propos. Évidemment, vous êtes toujours très attentive à tout ça.
Oui, c'est mon job. Je suis là pour ça, notamment au gouvernement. Ce qui se passe, d'abord, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de dialoguer, parce que je pense qu'on gagne toujours au dialogue et on gagne toujours à essayer de mieux se comprendre les uns les autres. Donc merci pour cette occasion. J'ai vu également vos excuses et je pense que c'est tout à votre honneur de comprendre justement les réactions que ça a pu susciter et de vous excuser à cet égard. Maintenant, sur le sujet en lui-même, moi, ce qui m'a vraiment interpellée et choquée, ce n'est pas l'affaire Neymar en tant que telle, parce que cette affaire, moi, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas non plus. Il y a effectivement une affaire en cours de jugement et donc il faut que la justice se passe et ni vous ni moi ne sommes procureurs. Je ne me prononce pas sur cette affaire en particulier. Néanmoins, ce qui contribue à la culture du viol, qui est un concept qui relève de tout ce qui tend à minimiser, excuser, plaisanter, voire promouvoir une forme de culture du viol et donc de légèreté autour des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des viols que vivent les femmes et certains hommes. C'est notamment justement ce type de propos, c'est-à-dire ce qui consiste à se moquer des femmes qui accusent des viols. Moi, encore une fois, je ne pense pas et je ne prends pas la parole sur l'affaire de Neymar, mais en pensant à toutes les femmes qui regardent votre émission, parce que je sais qu'elles sont aussi nombreuses, et qui ont entendu ces propos, et qui se disent, bah mince, moi aussi, si je porte plainte, si je vais dénoncer les viols ou les agressions sexuelles que j'ai subies, peut-être on va me dire dans mon entreprise, dans ma fac, dans mon quartier, c'est pas possible, t'as pas pu être violée parce que t'es trop moche, parce que t'es trop grosse, on va se moquer de moi, on va dire que je suis trop vieille, on va me dire que j'ai pas eu le bon comportement, etc., etc. Et moi, en tant que responsable de politique publique, je fais en sorte que les femmes puissent aller porter plainte. On forme les policiers pour cela, on finance un numéro qui est le 3919, on finance une plateforme de signalement, et je suis très sensible effectivement à tous les messages qui peuvent être envoyés. Je pense que c'est important de dire aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles qu'on est de leur côté, et que évidemment l'État et la société va les défendre et être de leur côté.
Marlène Schiappa, évidemment, l'after fait son mea culpa une nouvelle fois, les excuses de Daniel, de Jérôme.
Vraiment, encore une fois, il n'y avait absolument aucune intention d'entrer dans le cadre de ce que vous défendez, évidemment. Voilà, vraiment.
Merci en tout cas d'avoir été
avec
nous.
Merci à vous.
Vous avez regardé l'équipe de France féminine et masculine ce week-end ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce qu'on va en débattre, alors, du coup.
Là, très bon match. On voit qu'il y a une très grande technicité. Moi, vous savez que je suis supporter de l'OM. Je suis fan de foot. Et je vois que chez les femmes, il y a aussi un grand professionnalisme, une grande technicité et un enthousiasme. Et j'espère qu'elles vont aller loin.
Merci Marlène Schiappa. Bon, vous ne savez pas supportrice de l'OM, donc
Si.
On en a trois.
Voilà.
Ah ouais. Et encore une fois, elle est le président, ça fait beaucoup d'OM au gouvernement quand même.
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Oh, il y en a sans doute aussi des supporters du PSG. Enfin, je sais pas, sans doute. Merci Marlène Schiappa.
Merci
en tout
beaucoup.
Cas. Bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci, bonne soirée.
À bientôt. Voilà donc sur ce dossier, mea culpa de l'after de Daniel et Jérôme. Et on peut donc maintenant passer à notre premier sujet, messieurs.
Et Jérôme,
l'équipe de France
auprès des
masculine.
Supporters de Lorient quand même. Faudrait que Jérôme fasse ça aussi.
Exactement. Alors, toujours 1-0 pour le Portugal face aux Pays-Bas. J'ai d'autres résultats à vous donner avant qu'on parle de l'équipe de France masculine, parce que il y avait le match pour la troisième place, vous savez, de la Ligue des Nations cet après-midi, entre la Suisse et l'Angleterre. Victoire au tir au but des Anglais, 6 tirs au but à 5. Voilà. Alors, je rappelle quand même que cette Ligue des Nations n'a pas de conséquences là ce soir sur la qualif. Hein. Voilà, le système est un peu compliqué.
On s'en fout, même le vainqueur, il y a rien
non,
pour le vainqueur.
Le vainqueur n'est pas qualifié d'office. Ouais. Ils sont les deux dans un groupe de qualif, le Portugal comme les Pays-Bas. Voilà. Il y aura en fait à la fin des groupes de qualifs, des barrages qui concernent les petites nations qui ne seront pas qualifiées via les qualifs actuels. Tu vois, avec les divisions de la Ligue des Nations.
C'est la seule conséquence de la Ligue des Nations sur l'Euro.
Je sais pas si j'étais clair, parce que c'est très compliqué.
Non, mais... la Ligue des Nations, de toute façon, à part Nico Villas qui arrive comprendre.
Non, il avait essayé de l'expliquer.
Ouais,
il avait essayé de trois fois.
On comprend pas trop. Attends, je suis en train de penser à un truc rapport à l'affaire et tout. Je voudrais préciser une chose. Et je m'adresse notamment aux jeunes qui nous écoutent plus qu'aux anciens qui écoutent l'after depuis longtemps. Il s'agit absolument pas, nous, quand on est dans l'after, de faire un concours de gros bras, de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut pas dire. Moi, tous les joueurs qui ont essayé de me contacter, de m'appeler, ou les dirigeants, machin, pour dire, ouais, t'as dit ça, machin. Moi, notre but, c'est pas de choquer ou de provoquer le scandale, même si certains pensent qu'on veut faire de la polémique gratos et tout, que ça fait marcher l'émission. C'est jamais ça qui a fait marcher l'after. Ce qui a fait marcher l'after historiquement, c'est nos analyses, les choses qu'on a dit avant tout le monde en matière de football, et pas le buzz qui est d'ailleurs souvent alimenté par les réseaux sociaux et leur explosion ces derniers temps. Nous, on n'est pas là pour... Moi,
puis les réseaux sociaux n'ont pas existé tout le temps dans l'histoire de l'after,
si
en plus.
Moi, si je dis un truc et que ça choque des gens, ou une partie des gens, que d'autres trouvent ça pas choquant, tu vois, il suffit qu'il y ait une minorité qui soit choquée. Moi, j'ai aucun problème à m'excuser. Et si je le dis aux jeunes, c'est parce que quand on est un peu plus jeune, on est un peu plus dans le concours de gros bras, tu vas pas t'excuser, t'as le droit de dire ça, t'as le droit... Non, s'il y a des gens qui sont choqués, j'ai aucun souci là-dessus, j'ai pas l'impression de baisser mon froc parce que je m'excuse si...
Non mais et Daniel, c'est tout à fait normal de...
10% qui sont... S'il y en a que 10% qui sont choqués, ça m'emmerde qu'ils soient choqués pour n'importe quel sujet, qu'ils me le disent, voilà. Et j'en parle avec eux, c'est pour ça que moi, j'invite tout le temps, comme on a fait After et vous la semaine dernière... Les mecs veulent venir nous dire, tu peux pas dire ça, ça m'a choqué. Viens, dis-le-moi, on en parle. J'ai aucun souci avec ça. C'est pour ça que quand il y a ce genre de polémique, bon alors aujourd'hui ça a pris un truc. Moi, le type dit ça, tu le dis pas parce que effectivement j'ai pris conscience après. Moi, ok, ouais, J'ai pas du tout pensé le sous-entendu.
On dit un truc qui est pas acceptable, on s'excuse et
problème,
on passe à la suite.
Il y a aucun problème pour s'excuser.
Bah, tu sais quoi, je vais profiter de l'occasion et je vais m'écarter un peu de ce qui nous a concerné, enfin ce qui t'a concerné toi et Jérôme et l'intervention de la ministre ce soir, mais j'ai eu un propos, mais alors enfin ça a vraiment rien à voir, hein, c'est beaucoup plus léger sauf peut-être pour quelques-uns. Dimanche dernier quand on a parlé du nouveau repreneur de l'OGC Nice, et toi en décrivant son parcours, son cursus,
j'ai expliqué qu'il avait racheté l'équipe cycliste.
Ouais, mais dans le déroulé de tes paroles, ce qui est important, c'est que tu as dit il a réussi dans une entreprise qui était dans les produits chimiques, puis en reprenant une équipe de vélo et le temps de trois secondes, en fait. T'étais là, non, peut-être? Mais tu t'en rappelles même plus. Je crois que c'était Joe McCarthy qui était là ce dimanche-là, c'est pour ça. Ça a duré 3 secondes, j'ai dit, oh mince, j'espère que les produits chimiques vont pas, du coup, arriver dans le vestiaire de l'OGC Nice. C'était une blague, effectivement, pour certains, rigolote 2 secondes, pour certains, vraiment pas rigolote, pour d'autres, même déplacée, sûrement, puisque j'ai eu, par rapport aux cyclistes, parce que j'ai eu des propos. Ce qui est embêtant, et là, j'en reviens à ce que tu dis, Daniel, moi non plus, j'ai pas de problème à m'excuser, j'ai eu Nicolas Fritsch, par exemple, qui sur Twitter, a écrit des messages. J'ai pas répondu sur Twitter, tu sais pourquoi? Parce que pour un, je crois qu'il y en a un en privé qui m'a envoyé un message, tranquille. Non mais tranquille, tu vois, en parlant. Je trouve ça déplacé, machin, etc. J'aurais pu lui répondre. J'ai répondu à personne parce que les gens sur Twitter prennent une phrase dans une émission, la sorte du contexte, et ça devient gros con, gros connard, machin. Bah ces gens-là, moi, par contre, j'ai pas envie de m'excuser auprès d'eux, tu vois. Parce qu'à un moment donné, s'ils peuvent pas comprendre un peu d'humour, même un peu maladroit, je ne dis pas que c'est dans le même contexte.
Qui dit tout haut, ce que le monde du foot pense tout bas. Ne vous inquiétez pas.
Dans l'after, dites-vous bien qu'il y a 95% des gens qui vous écoutent qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, qui là,
oui, bon, mieux, quand
est-ce qu'on commence à parler de foot? Et ben, c'est maintenant, avec l'équipe de France masculine, on va démarrer par eux, puisque c'était hier soir. Ensuite, on parlera des filles, puisque c'était avant-hier et qu'elles rejouent, là, dans quelques jours. Vous étiez pas là hier soir, tous les deux. Ludo Bragnac était là, Jonathan était là. Est-ce que c'est grave ce qui s'est passé hier soir? Votre avis sur cette défaite des Bleus?
Non, c'est embêtant sur un plan comptable, voilà, parce que tu tiens plus, t'as pas les rênes. Mais honnêtement, c'est pas qu'on va chercher des excuses à l'équipe de France. Ils ont fait un très mauvais match. Ils n'étaient pas impliqués. Ça se voyait.
Eux n'ont absolument pas voulu en chercher.
Mais l'explication pour moi, elle est toute naturelle et toute trouvée. C'est que les mecs, ils sont dans une phase là où ils ont juste envie de ne plus jouer au foot et de décompresser. Alors qu'il y en ait qui le comprennent, parce qu'ils ont tous eu des grosses saisons et que t'arrives dans un moment où t'as envie de couper et juste envie de couper. Et qu'il y en ait d'autres qui ne le comprennent pas.
L'équipe de France est victime du calendrier, quelque part?
Non, mais pas elle spécialement, tous les joueurs de foot qui... Ouais, mais c'est pas le même type de joueur, Gilbert, tu le sais très bien.
Après, ils ont pas joué 50 matchs dans la saison.
Ouais, puis la plupart des joueurs qui composent l'équipe de France aujourd'hui ont eu des grosses saisons avec les plus gros clubs européens, etc., etc. Il y a des circonstances. Alors, il y en a certains qui vont répondre que, ce sont des professionnels, que tant qu'on les met sur le terrain, il faut qu'ils jouent et qu'ils jouent à leur niveau. Sauf que parfois, effectivement, tu décompresses, t'as pas envie de le faire consciemment, mais inconsciemment, tu décompresses. Et hier soir, moi, ce match-là, il me fait penser à ça. Ils y sont pas dans l'enthousiasme, dans la concentration. Techniquement, ils ratent des choses, tous autant qu'ils sont, qu'ils ne rateraient pas en temps normal quand ils sont concernés et concentrés. Donc voilà, c'est ça, c'est le timing de ce match qui est pas à leur avantage. C'est pas une excuse, mais c'est une constatation. Voilà.
Daniel, ton point de vue global sur la performance ou la non-performance?
On peut chercher d'excuses immédiatement. Ils sont venus dire, grosso modo, si on fait simple, on a été mauvais. Merci, on l'avait vu. Plus globalement, en fait, cette prestation, elle dit quoi? Elle dit que c'est un peu l'histoire du foot. T'es champion du monde, personne te l'enlèvera jamais. Ce moment de grâce, tu l'as vécu pendant un mois, tu soulèves la coupe après. Mais c'est comme quand tu gagnes la Ligue des Champions. Dès le mois de septembre, il y a une nouvelle compète qui démarre. Et t'effaces pas ce qui s'est passé, parce que la coupe, tu l'as eue. Mais c'est une nouvelle aventure qui reprend. Et ça veut pas dire, au moment où on redémarre cette nouvelle aventure, que t'es toujours le plus fort. Et en plus, les gens qui sont contre toi...
Motivation décuplée.
...veulent te faire la peau.
Bien sûr.
Parce que t'as été le champion. C'est d'ailleurs pour ça que dans les rues hier en Turquie, il y a eu des manifestations de joie. On a l'impression que eux-mêmes avaient gagné la Coupe du Monde.
Surtout que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas battu une grosse équipe, en plus.
C'est un peu comme s'ils avaient tapé l'équipe qui a soulevé la Coupe. C'est un peu comme s'ils en avaient pris un petit bout. Et ça va être comme ça à chaque fois. Des enseignements,
compliqué d'en sortir là, des
c'est
enseignements.
C'est compliqué parce que effectivement les mecs sont à bout, fin de saison, souvent au mois de juin t'as ce genre de match un petit peu pourri. Maintenant, en vue de la suite de ces nouvelles aventures qui vont se proposer aux Bleus, la question à se poser, et t'en as toi souvent parlé Pierre, c'est comment tu vas évoluer avec ton équipe, quel genre de jeu tu vas mettre en place. C'est est-ce que tu peux
ça devient de plus en plus
continuer à essayer à gagner, sachant que quand t'as gagné sur un mois cette aventure-là, on sait comment ça s'est passé. Il y a eu une efficacité maximale, une réussite maximale.
Que tu peux mettre en place dans un tournoi. Voilà.
Est-ce que dans le prochain tournoi, tu peux gagner de la même façon?
Et est-ce que surtout dans des qualifications, tu peux gagner de la même façon?
On va pas se risquer à dire c'est aussi impossible, parce que l'impossible, on l'a vu que l'année dernière, que peu pensaient que les Bleus seraient champions du monde, ils l'ont été, donc je vais pas redire, ça m'étonnerait. Mais repartir avec l'équipe comme ça, avec ce milieu là, avec Matuidi dans ce rôle hybride de milieu gauche qui revient comme ça dans l'axe, il a manqué Kanté, sans Kanté, t'as plus l'équilibre. Ouais, ok. Tu dois pas le faire évoluer ton jeu de cette équipe. Alors, est-ce que ce sera toujours Giroud, ton attaquant, à l'Euro? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut pas commencer à voir qui va être ton prochain neuf? À partir de quand tu mets en place?
C'est les mêmes questions qu'on se posait un an avant la Coupe du Monde.
Ça fait un an maintenant, hein. Ça fait un an. Donc c'est dans un an la prochaine année. Est-ce que tu dois continuer comme ça? Est-ce que alors parler de la prestation de Mbappé? Ouais. Et moi ça fait plusieurs semaines que je dis que
il avait l'air triste hier sur le terrain.
Moi je vous dis ça fait plusieurs semaines qu'il a pas l'air bien du tout
dès le début du match.
Je trouve un peu.
Et il est dans un rôle.
Focaliser
de moins en. Non,
faut pas focaliser juste sur Mbappé.
Non, mais moi je parle même pas des actions qu'il a pu louper, etc. Je parle dans les. Tu sais, tu vois des fois quand il y a des plans rapprochés, etc. Ouais, tu vois sur le faciès des fois quand un garçon est
usure mentale
et heureux ou pas.
Moi je vous dis qu'il est pas bien à l'intérieur Mbappé et ça fait plusieurs semaines et sa sortie à la soirée UNFP. Je veux plus de responsabilités, je veux ceci, cela. J'avais dit, et en équipe de France, il va faire quoi? Il va retourner sur son côté. Il y était. Ça s'est bien passé? Non. Il aime? Je crois pas. Dans cette sorte de 4-4-2, faux 4-3-3, qu'on comprend pas toujours. C'est réellement comme ça qu'on va continuer l'histoire?
Mais pourtant, pour moi, c'est là où il doit être.
Je sais pas. Avec Umtiti qui redevient pas titulaire? Question à se poser aussi. Donc en fait, voilà. Ton aventure d'il y a un an, c'est fini. Il faut en réécrire une nouvelle. Et je sais pas si tu peux reprendre exactement les mêmes acteurs et réécrire le même scénar.
L'histoire d'hier soir, Pierre, c'est une question d'investissement personnel et d'envie, en fait.
Bien sûr.
Techniquement, les joueurs qui sont pas au-dessus, sauf que les mecs, ils avaient le match de leur vie dans un stade bouillant.
Ils ont des bons joueurs de foot. Hein, si toi, t'es pas à ton max, tu fais plus la différence.
Alors, l'engagement, voilà.
T'as des bons joueurs.
C'est ça.
C'est que ça. C'est qu'à un moment donné, t'as une équipe qui fait le match qu'il faut. C'est les Turcs. Voilà. Avec au maximum de leur qualité, mais alors que ce soit technique, physique, dans l'engagement. Mmh. Et de l'autre côté, t'as une équipe qui normalement est plus forte quand elle est au max. Sauf que là, tous ensemble, à un moment donné, c'est pas un ou deux, mais tous ensemble, ils ont du mal à être concernés, concentrés et dans l'engagement. Mais moi, honnêtement, c'est pas une excuse, mais je peux le comprendre. Ils ont eu des grosses saisons et à un moment donné, t'as, même inconsciemment parfois, t'as le besoin de souffler et de couper.
Thomas est là au 32-16. Salut Thomas.
Salut Gilbert, salut Gab, Pierre et Daniel, salut à vous.
Salut. T'es inquiet du coup après la défaite d'hier ou c'est un épiphénomène du mois de juin?
Non, je suis pas inquiet. Après, vous en avez parlé. Il y a beaucoup d'explications à ça et je pense aussi qu'il faut prendre des cas personnels en compte. Chaque joueur ne jouait pas avec la même envie ou la même mentalité, je pense, hier. Bref, vous avez parlé d'Mbappé, moi je parle aussi de Griezmann qui est en instance de...
Oui, t'as raison.
Je sais pas quel club.
Oui, on n'a pas parlé de Varane d'ailleurs, qui sur les marquages hier soir était globalement à 3,50 m.
Il est moins bien sur la deuxième partie de saison et ça se voit sur un match comme ça. Umtiti, il est plus titulaire au Barça.
Et toujours en équipe de France.
Et voilà, toutes ces questions, elles sont en suspens. C'est comme le système dans lequel t'évolues, tu vois.
Le niveau de Pavard, c'est Thomas, toujours la question.
C'est Thomas, pardon. Oui, je me trompe pas. Et Thomas, t'as raison d'insister sur les cas individuels, parce que on peut en parler aussi. C'est une période où, effectivement, les mecs qui sont dans l'incertitude de leur avenir, même si ce sont que des grands joueurs et on n'est pas inquiet sur le fait qu'ils retrouvent des clubs ou qu'ils aillent à droite ou à gauche, mais quand t'es dans l'incertitude, ça joue aussi. T'as peut-être pas envie de te faire un croisé ou d'y laisser une cheville, quoi.
Ouais, après, tu sais, un match comme tu peux inclure, même s'il a fait un bon match, Lloris, qui a perdu la Ligue des Champions la semaine dernière, Sissoko, Giroud qui a gagné sa Ligue Europa, qui a mis ses buts, etc. Après, l'ambiance l'ambiance et le contexte du match aurait pu les motiver. En
c'est
disant,
vrai.
C'est quand même chaud, on peut essayer de tirer un résultat et repartir avec un match nul et on aura fait le boulot. Voilà. Après, je suis pas surpris, mais moi, ce qui m'inquiète à moyen terme, on va dire, c'est de reconstruire une équipe pour l'Euro 2020 et notamment la Coupe du Monde aussi qui va suivre, et ne pas faire comme l'Allemagne, ne pas faire comme ces équipes tenantes du titre et qui se plantent direct. Et c'est là la difficulté, parce que il faut continuer et trouver un équilibre.
Ouais, là-dessus, moi, je rejoins assez Thomas, c'est-à-dire que
c'est ce que Daniel vient de dire aussi.
On ne voit pas pour l'instant de signes tangibles de changement durable.
Non, mais la question, Thomas, qu'on peut se poser, c'est à terme, c'est-à-dire dans un an, hein, finalement, c'est pas très lointain. Qui tu ne vois plus dans cette équipe? Giroud, peut-être. Un des deux défenseurs centraux, Umtiti. Allez,
Umtiti, s'il joue plus jamais, au bout d'un moment.
Mais le reste, on peut penser qu'il soit toujours.
Umtiti peut pas stagner en étant remplaçant.
Le reste, quand tu fais le tour, tu peux penser qu'il soit toujours apte et très en forme et à très haut niveau, et que Deschamps ait dans la tête l'envie de refaire le même coup.
T'as toujours aussi, t'as toujours la possibilité d'adapter des fois je pense à la Coupe du Monde et je sais que par exemple Deschamps a trouvé son équipe contre le Pérou. Tu sais, des fois, bon, ça arrive pas tout le temps, mais tu peux trouver ton équipe après un match ou après une remise en question de beaucoup de joueurs. Mais c'est sûr que dans l'idée, oui, comme tu dis Pierre, tu vas garder 80%, 85% de ton équipe que tu as actuellement pour la prochaine compétition. Et il va falloir remobiliser les mecs en leur disant voilà, c'est le Graal que vous avez atteint, mais il y a d'autres objectifs et aller chercher quoi.
Et est-ce que ces mecs là justement, l'objectif est pas de juste se qualifier, peu importe un peu la manière, et de savoir que dans leur tête ils sont prêts pour réaliser le même tournoi en championnat d'Europe qu'ils ont réalisé en Coupe du Monde peut-être.
C'est ça, mais moi je pense que la force et la chance peut-être aussi de la France, c'est que pour moi c'est une équipe de tournoi. On a gagné la Coupe du Monde parce qu'on est une équipe de tournoi et qu'on a été bon.
Alors d'autant que l'Euro 2020, Thomas, c'est dans un an, il sera très spécial hein, parce qu'il n'y a pas de pays hôte. Ça va être un peu, un peu les cartes. C'est-à-dire que tu vois le pays hôte qui parfois part avec un petit avantage comme ça. Là, ça n'existera pas. Tu auras des histoires de déplacement. Ça va être vraiment différent.
Que tu peux jouer l'Italie à Milan par exemple, un truc comme ça.
Ça tout dépend du tirage au sort. Hein.
Ça serait possible.
Après, l'Italie et la France, a priori, seront sans doute tête de série les deux, donc sans doute pas dans le même groupe.
Oui, même dans un quart de finale, dans une demi-finale.
Tu peux jouer l'Azerbaïdjan à Bakou, par exemple.
Oui, voilà, c'est une ambiance comparable à celle
de l'Euro 2020. Avec l'Euro 2020 éclaté, là.
Ouais,
j'ai bien vu que t'avais décroché, là.
Tu faisais des gribouillis aussi, Daniel. Tu
faisais comme ça. Les gribouillis, c'est vrai, mais je comprends pas pourquoi vous voulez.
On dit que ce sera pas un euro, comme d'habitude, parce qu'il y a, tu vois, le pays qui reçoit, il n'y en aura pas. Non, là, tu sais pas où
tu joues. Et surtout, avant ça, pour que tu comprennes, on parlait que peut-être l'objectif de Deschamps est de...
Il est bon, lui, quand même.
Non, sur les tu vas voir, tu l'as.
Non, mais c'est vrai que j'ai oublié le concept de l'euro.
Thomas, merci en tout cas.
En fait, que c'est un tournoi biaisé, quoi.
Salut à toi.
Ciao Thomas.
Ciao, à bientôt.
Non, mais on disait que peut-être l'objectif de Didier Deschamps est peut-être de passer les qualifs tant bien que mal, parce qu'il sait qu'il a une équipe de tournoi où il va peut-être pouvoir réaliser la même chose qu'à la Coupe du Monde finalement.
Ouais, ça, je sais pas.
Dans quelques instants, on entendra Hugo Lloris. On parle ensuite du match à venir face à Andorre de l'équipe de France féminine. Et puis surtout, on retourne dans quelques instants à Porto pour Portugal. Pays-Bas toujours à 0 pour les Portugais. À 6 minutes de la fin. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit l'after, bien sûr, Pierre Ducrot, Daniel Riolo et vos appels au 32-16. On vous attend, n'oubliez pas, le 32-16, toujours dispo pour vous, pour débattre de tous les sujets, évidemment. Morgan Maury, la finale de la Ligue des Nations Portugal-Pays-Bas, où en est-on, Morgan?
1-0 pour les Portugais, but de Guedes à l'heure de jeu, coup franc pour les Portugais, 89e minute, Cristiano Ronaldo, ça passe à côté de la cage de Siles.
Il paraît qu'il fait chaud à Lisbonne, mon vieux, là.
Pardon, Daniel.
Il paraît qu'il fait chaud à Lisbonne.
C'est à Porto. Merci, Daniel. 1-0 pour le Portugal, il reste une minute avant la fin.
Montre-nous ta feuille, Daniel. Elle est griffonnée dans tous les sens. Il nous fout le match de Porto à Lisbonne.
Enfin, le Portugal domine quand même globalement, Morgan.
Oui, largement. Peut-être les Néerlandais émoussés par leur prolongation face à l'Angleterre dans la deuxième demi-finale de cette phase finale de Ligue des Nations. 90e minute, ballon pour Cristiano Ronaldo sur la droite qui combine avec Semedo, récupération néerlandaise. 1-0 pour le Portugal, bientôt l'annonce du temps additionnel.
À tout à l'heure. Il y avait des matchs amicaux aussi aujourd'hui. Alors vous savez qu'on prépare la CAN. Le Cameroun a battu la Zambie 2-1 tout à l'heure. La RDC et le Burkina en fait 0-0. Il y a le Brésil qui joue en ce moment même, tiens, face au Honduras, un match amical avant la Coupe América. Il y avait 3-0 à la mi-temps avec un but de Thiago Silva, entre autres. Bah ouais. T'es étonné qui marque?
Bon, c'est un coup de pied arrêté.
Ah bah il y a 7-0 là. Ah bah oui, d'accord, c'est 7-0, donc le Honduras c'est du haut niveau.
De Thiago Silva.
Il était à la Coupe du Monde pourtant, le Honduras. Benzema marque contre le Honduras.
Même bien, ça passe en équipe.
Benzema a marqué contre pas mal de...
Benzema a marqué contre le Honduras à la Coupe du Monde. Donc 7-0 là à 20 minutes de la fin. Demain soir, je le rappelle une dernière fois, match de l'after. Alors, petite annonce Daniel, tu sais que Pierre Ducrot sera dans l'équipe Rotten.
Bah, je sais, oui.
Jérôme, j'ai vu leur petite vidéo là avec Jérôme. Là,
Jérôme fait Daniel, savoir ce soir que Pierre sera capitaine demain de l'équipe Rotten.
Bah, voilà. je sais.
Et je suis en mesure d'ores et déjà de te remettre ton brassard. Je le montre, le brassard de l'AS Rotten.
On peut faire
un gros plan.
Je suis titulaire, on l'a mis
sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux bien le mettre, en plus c'est la classe avec un velcro et tout, tu vois. Avec
vaut mieux parce qu'on n'a pas tous les mêmes.
L'AS Rotten symbolisé bien sûr par un melon.
Triceps.
Sur dans son. Alors que pour le Riolo Football Club, on a mis un pitbull. Je sais pas pourquoi.
C'est un pitbull ça.
Voilà. Non, ça oui c'est un pitbull. C'est le brassard de l'équipe Riolo. Ouais. Et alors, j'ai même les fagnons du match, hein, pour demain, pour l'échange des fagnons.
Oh là 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 là.
C'est la classe.
Mon capitaine, tu veux pas savoir c'est qui c'est, mon capitaine?
C'est qui ton capitaine?
Francky?
Oh, Francky le meuf, bah, normal.
Francky, mon capitaine.
Francky, très bien. Voilà. Il aura
un
le brassard.
Un peu enfermé, non?
Grand rouge. Ou mec de la BAC.
Ah mais merci pour le. Je serai mon montrer digne.
Tu le gardes pas, tu.
Non, pas là, c'est pour demain.
Ça veut dire quoi? Que tu vas attendre la fin du match pour te claquer ou tu vas faire comme t'as fait avec moi, te claquer au bout de 10 minutes et après ne pas vouloir
sortir? Tu sais quoi,
ce
jour-là?
Je te préviens, si tu fais un gros match dans l'équipe des jambes, je te préviens que je te parle plus.
Ce jour-là, en fait, tu sais ce que j'ai testé? Toi qui parles tout le temps de l'autorité au PSG, etc. J'ai testé la tienne. Wow. Et t'étais même pas capable de faire sortir un ancien pro du terrain.
Mais je t'ai demandé de sortir, tu m'as dit non.
Bah ouais, donc tu dois faire quelque chose. T'imagines Tourelle quand il demande à un joueur de sortir si le joueur veut pas sortir.
Tu me dis non, je sors pas.
Mais tu dois faire jouer ton autorité là-dessus.
Tu t'avançais plus. Tu boitais tes dates, tu traînais la patte.
Tu dois appeler le Antero de RMC, donc peut-être Gilbert. Tu dois appeler le Calafi de RMC, je sais pas.
C'est un bon exemple.
S'il y a un championnat,
je sais pas l'autorité quoi.
S'il y a un championnat derrière, il est évident que t'es sanctionné et que limite je te vire du club. Mais là, en l'occurrence, sur ce match, je peux pas te sortir du terrain.
Tu dois y arriver. Psychologiquement, tu dois être capable de me faire comprendre.
Alors,
qu'il faut que je sorte.
Je rappelle évidemment que demain, c'est à 20h au Stade Bauer à Saint-Ouen, le stade du Red Star qui nous accueille. On les remercie. On remercie aussi la ville de Saint-Ouen, d'ailleurs, qui nous accueille. Ils seront tous là demain. Et demain, retour d'historique de l'after. Florent Gautreau sera là. Hein, il jouera bien sûr.
Il joue, ouais.
Toujours voilà.
Ouais, dans mon équipe.
Le Jean-Pierre Papin de Tours, bien sûr. Eric Dimeco sera là pour commenter le match. Enfin, 1000 surprises demain. Donc venez nombreux, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et le match sera diffusé sur RMC entre 20h et 22h demain. Puis l'after sera là de 22h à minuit. Hugo Loris, on y revient. Ah oui, dernier truc. Venez avec vos écouteurs pour écouter les commentaires ou alors avec votre petite radio à l'ancienne au stade avec la petite radio.
Ah, vous
là.
Ne passez pas dans le.
Voilà. Non, parce que sinon ça fait un problème de son.
Ah
donc,
oui. Ouais.
Les commentaires ils seront à écouter, je vous le garantis d'avance. Hugo Loris, pour conclure sur le match de l'équipe de France hier soir, écoutez-le. Là, il est bon. D'habitude, Hugo Loris, c'est de la bonne langue de bois des familles. Là, j'ai bien aimé.
Il faut que tout le monde se remette en question après une performance comme celle-ci. Quel que soit le statut dans l'équipe, quel que soit l'âge, lorsqu'on porte ce maillot, encore plus avec ce statut de champion du monde, on a attendu partout, ça a été le cas ce soir. Encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Il y avait tous les ingrédients pour un grand match international et on n'a pas répondu présent.
Voilà, il s'est pas caché, le capitaine.
Il peut pas, oui, non. Il peut pas.
Et donc match contre Andorre. Alors cette fois, ça se jouera pas à Barcelone. Le fameux match, rappelez-vous, hein, ouais. Christophe Dugarry expulsé, Franck Lemeuf.
C'est contre Andorre que les Bleus vont se venger. Tain, les pauvres, ils vont prendre une tôle.
Qui? Ah,
ils vont prendre Andorre. Une tôle
Andorre, non? Non, mais ils vont pas se. Enfin,
moi, non, rien.
Je sais pas. Victoire bien sûr, mais je sais pas si les Bleus là en ce moment ont envie de faire un match à 150% Daniel.
Bah, déjà,
ils vont faire le strict minimum pour
déjà,
effectivement prendre les 3 points.
Déjà, on aura une équipe différente.
Bon. Tu penses qu'il y aura plus d'attaquants là ou on continuera avec le milieu méga renforcé là?
Ah bah là,
Andorre là, ça peut voler un peu, non?
Ouais. Bon.
Tu joues à l'extérieur, hein? À Andorre la vieille, Estadi National.
On joue à Andorre.
2000 mètres d'altitude.
Ah merde.
Ça fait quand même des arguments.
Rien à voir. L'altitude, rien à voir.
Faut bétonner le milieu. Alors du coup,
rien à voir.
Faut bétonner à 2000, tu bétonnes.
On l'avait dit avec la Bolivie, c'est ça?
L'altitude, ça n'a rien à voir.
Exactement. C'est fini, la Ligue des Nations, la première Ligue des Nations remportée par le Portugal, Morgan Mori.
Et les joueurs portugais qui dansent sur la pelouse du Stade du Dragon à Porto, ce sont les premiers vainqueurs de cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations, but de Gonzalo Guedes à l'heure de jeu, 1-0 pour les Portugais face aux Néerlandais dans cette finale.
Toi, tu vas faire la fête dans les rues de Porto maintenant.
Hein. Et pas de Lisbonne.
Merci Morgan.
Ciao Morgan.
Salut. Bye bye. Oui, je me suis un peu enflammé, c'est 1023 mètres d'altitude Andorre la vieille.
Moi. Ah, effectivement, t'es un peu enflammé.
Ouais. Ouais.
C'est pas 2000. Mmh. Non, 1000 mètres d'altitude, ça va, c'est...
Oui, oui, c'est assez haut.
Tranquille. Alors, 22h36, Daniel, figurez-vous, était vendredi, où ça?
Au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, pour l'ouverture de la Coupe du Monde féminine, et tu voulais nous raconter.
Bah en fait, ouais, c'est pas du tout un avis tranché.
Attends, on a un jingle. Raconter...
Ah bon? D'accord.
Malgré tout, c'est pour se faire plaisir.
Vas-y. Bon, Dijon, non, mais alors à Dijon, je pense que là, il n'y a plus qu'à tirer la chasse, c'est mort. Là.
Ah ben non, c'est gratuit,
ils sont sauvés.
Bah oui, c'est gratuit en plus.
Oh là là, merde alors.
T'en dis des conneries.
Oh putain. Ouais. Ma soirée
de vendredi.
De vendredi, ouais. Où d'ailleurs Pierre Ducrot est apparu à un moment dans cette soirée. Voilà.
Ah bon.
Mais je suis apparu où? Moi, j'étais pas au parc.
Alors, donc, j'ai...
Non mais comment ça, je suis apparu dans la soirée?
Tu verras, là, quelle impatience. Donc, j'étais invité à ce match d'ouverture. Donc,
t'étais invité déjà?
Ouais, exactement.
Ah ouais, par qui?
Moi qui...
On peut savoir?
Croque très peu les... Autant au tennis, j'hésite pas une seconde. Mais au foot, pas. Mais bon, là, voilà, donc place et tout. Moi, j'y vais pas, c'est un peu... Je savais pas trop. Puis j'avais eu un tournoi de tennis l'après-midi, j'avais perdu, j'étais pas en...
C'était pas loin en même temps.
État mental, tu vois.
Tu devais aller à un match de football féminin,
c'était là. Ma saison de vinaigre et tout. Et puis allez, je vais aller voir parce que match d'ouverture. Et puis j'avais envie de me rendre compte un petit peu voir si l'engouement allait être là depuis le temps qu'on en parlait, de voir un petit peu l'ouverture de cette Coupe du Monde.
Et le match lui-même quand même.
Ouais, non mais plus, j'avais vraiment
envie de voir
autour, ce qui allait se passer, ce qui allait. On disait le Parc des Princes plein, ok, mais avec quelle forme d'ambiance, quel genre de personnes. C'est plus ça que j'avais envie de voir, quoi, à la limite, parce que le match, je savais de toute façon que les Bleus allaient gagner facilement cette rencontre.
Donc voilà. Sur un match d'ouverture, t'es jamais sûr.
Il y avait
la pression qu'il y a, etc.
Premier point de contrôle.
Il te va bien.
Premier point de contrôle de billets, je tombe sur la toujours charmante et sympathique présidente de la LFP, Nathalie Bois de la Tour.
Mm-hmm. Ah, elle faisait les contrôles de billets?
Non. on passe ensemble. On était pas exactement dans la même tribune, mais pas très très loin. Donc on a marché un petit peu. Elle aussi, assez excitée, l'idée de voir. On regardait un petit peu le public. Est-ce que c'était le même public que pour le foot que j'ai l'habitude de voir? J'essayais.
Sur une Coupe du Monde, je pense, ouais.
Alors j'essayais, ouais. Le côté Coupe du Monde fait que c'est toujours un peu plus famille.
Bien sûr.
Alors, il y avait beaucoup de filles. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que foot féminin ça attire les clubs ou les petites filles qui jouent au foot?
Il y avait toutes les licenciées déjà.
Voilà. Ouais. Donc il y avait ce côté-là qui changeait. L'ambiance était, voilà, le truc qui était un peu foireux, c'est qu'il faisait super froid, que c'est une sale soirée au niveau météo, mais ambiance méga décontractée, quoi. Donc assez différent de l'ambiance d'un match de foot qu'on a l'habitude de suivre nous, quoi. Tribune, je vais m'installer. Bon, je te dis pas que je passe par le buffet et qu'après mon match de tennis, j'avais très faim et que j'ai tout déglingué. J'étais invité, là j'ai profité. Hein.
Bien le buffet, qualité
Écoute, très très bien. Alors, j'ai vu tout. Les délégations de la FIFA, mais ça c'est la première fois que je voyais ça en revanche, mais ils arrivent en autocar les mecs. Le nombre de mecs de la FIFA qui croquent.
Ah bah c'est eux qui organisent la compète en même temps.
Ah ouais.
Bah c'est un peu toujours.
Ah ils
comme
ont
ça,
des réunions.
Les mecs des sponsors, les mecs de la
FIFA. En Ligue des Champions,
je sais pas
s'ils
font des réunions.
UFA,
mais alors
pareil,
putain, dans les buffets, il y avait plus rien.
Il y avait le congrès de la FIFA là à Paris. Attendez.
Ah bah c'est ça. Il y avait plein de gens avec des brassards, des badges FIFA, machin et tout. Et après dans le stade, franchement, d'abord c'est.
T'aurais dû leur parler de la VAR, t'es pas de la FIFA. Plutôt qu'aller bouffer au buffet.
Au buffet, franchement, je pensais qu'à bouffer, je te le dis clairement. Voilà.
Pour une fois que tu les avais sous la main.
Ouais, mais je savais pas lequel choper pour lui parler de ça, tu vois. Et cérémonie d'ouverture, super réussie. Comment elle s'appelle la nana, la chanteuse, là, j'ai oublié, là. Celle qui est en combi sur Vette, là, tout le temps, j'oublie toujours son nom.
Enfin, alors moi, je l'ai pas vue, là. Je suis
j'ai un trou.
Donc réussie.
J'ai pas vu la cérémonie.
Super spectacle, ambiance, et alors là,
Bah tu vois comme quoi, parce que moi j'ai lu plein de tweets.
Voilà, merde,
j'ai vu plein de tweets où les gens pensaient, enfin, trouvaient que la cérémonie avait pas été.
Non, franchement, elle était super.
Peut-être qu'en live là-bas sur le terrain, ça donnait mieux qu'à la télé. Je l'ai pas vu.
En plus, bon choix. Cette chanteuse, je trouve, c'est plutôt bien de l'avoir invitée, elle et tout, vraiment bien. Et puis alors. Mais il y avait tout le foot français qui était là. Et j'ai trouvé super bien cette mobilisation de tout le monde. Ah là, j'en ai vu du monde, hein, de tout, quoi, des joueurs, machin, à l'entrée, je tombe sur l'ami de Pierre Ducrot, Greg Pesley.
Ah, Greg était là.
Voilà.
D'accord.
Et là, tu vas t'arranger avec lui, mon vieux, mais il est pas invité au match de demain soir et il l'a très mal pris. C'est de ta faute, tu l'as pas invité.
Mais non, alors. Non, je t'explique. Greg, il a voulu être gentil avec toi, mais depuis que tu lui as dit que c'était un con de mâcher les chewing-gums quand il jouait, il veut plus venir. Il a pas voulu venir.
C'est pas vrai. Il me l'aurait dit, c'est un gars.
Tu sais quoi, il m'en a même pas parlé.
Il me l'a dit.
Je vais être franc avec toi, j'ai été au golf avec lui vendredi matin.
Notre match demain, il me dit non, Pierre m'a pas invité.
Moi c'était c'est pas moi qui fais les invitations.
La suite.
Tu sais quoi, il est à côté, il peut venir demain.
Et en fait, je me suis rendu compte au moment où il y avait toutes ces personnes, ce parc plein, l'ambiance qui montait, la musique et tout, je me suis dit, mais j'ai repensé, tu sais, à Gaëtan Tiné, il y en a deux quand même qui étaient là il y a plus de 10 ans, tu sais, quand on était allé à Clairefontaine dans cette rencontre avec les nanas du foot féminin, qui à l'époque
on avait fait un entraînement avec elles.
C'était encore plus confidentiel qu'aujourd'hui, quoi. Et Gaëtan Tiné, je l'ai entendu récemment dire que ce qu'elle enviait principalement au foot des mecs, c'était de jouer devant des stades pleins.
Bien sûr.
L'ambiance et la folie qu'il pouvait y avoir autour.
Bien sûr.
Et en fait, là, tu mesures, au moment où le match va démarrer, que ces nanas, elles n'ont jamais connu ça. Que c'est un événement dinguissime pour elles.
Les seules qui ont connu un petit peu des matchs à engouement, c'est celles qui ont été en finale de Ligue des Champions, etc.
C'est pas des salles aussi grandes.
Et c'est 15, 20 000 personnes.
J'ai pensé à ça aussi. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas la même dimension.
Et il y en a qui ont joué des Coupes du Monde. Mais c'était à l'étranger. Là, en France, avec l'attente, tout le foot français, les gens, les stades vont être pleins. Elles n'ont jamais connu ces émotions. Quand tu regardes les mecs jouer finale de Ligue des Champions, tous les matchs qu'on est habitués, c'est des émotions qu'ils ont l'habitude de gérer, qu'ils ont l'habitude de vivre. Même toi, quand tu regardes le match, tu dis, bon, bah ok, il y a une pression énorme et tout, mais t'es habitué à voir ça. Et là, tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce qu'elles doivent avoir dans la tête, ces nanas? À ce moment, quand elles vont rentrer sur la pelouse, qu'elles vont voir ça, elles qui n'ont jamais vu ça, au niveau pression. Et c'est là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est jamais évident un match d'ouverture, même si en face, c'est très faible. Tu dis, va falloir qu'elles surmontent l'émotion, parce que même toi, t'es en tribune, je les regardais.
Et ça te prend, ouais.
Putain, j'étais pris par leur émotion, je me disais, j'avais envie, tu sais, de descendre, prendre par l'épaule, dire, allez, filles, ça va? Et tu sais, tu vois la petite qui se met à chialer au moment des hymnes.
Tu l'as vu, j'allais te dire, t'as l'air d'être bien placé si t'avais les petits fours, mais à la télé, on a vu effectivement l'émotion sur les visages.
Elles sont toutes méga émues et tout, mais je me suis mis à leur place. J'avais très rarement vu ça avec les mecs. Tu sais, je me mets pas à leur place, je les regarde et tout, tu dis ok, très bien. Elle devait être submergée par l'émotion.
Deux solutions après, soit c'est une pression, une émotion qui devient
qui te détruit, qui
positive,
t'empêche et tout.
Ou qui devient,
et elle, bon, elle
à la brésilienne.
Hein?
Là, c'était pas la brésilienne en l'occurrence.
Voilà. Elles ont réussi à prendre le match par le bout.
Tous les Brésiliens ne réagissent pas comme ça.
Dans cet enthousiasme général, dans cette méga ambiance au terme de ce super beau match, belle victoire. Match, je te dis, c'était plus les émotions qui m'ont intéressé. Il y a juste un truc, quoi. C'est Corinne Diacre, faut qu'elle essaye de devenir sympathique, quoi.
Ah, elle est pas là-dedans, là.
S'il y a un petit, ouais, mais elle n'est pas là-dedans, je sais.
Je
me suis privé des, j'ai entendu son discours, je veux me priver d'émotions.
Non, mais elle a toujours été pour la connaître, pour l'avoir connue un tout petit peu quand elle était notamment à Clermont, elle est assez là-dedans, elle est très concentrée sur ce qu'elle a à faire et elle a très peu d'ouverture sur l'extérieur. Ouais, c'est ce personnage-là.
Et là, encore plus parce qu'elle veut qu'elle soit dans le partage, falloir qu'elle fasse
passer quelque chose.
Là, elle était là, sur le bord du terrain, là, avec sa gabarde et ses talons, on aurait dit une maîtresse d'école. Toute la fête était géniale.
Ça fait longtemps que t'as pas été à l'école, Daniel. Les maîtresses sont plus de gabardine.
Alors, j'aime bien qu'elle s'empêche d'être dans l'émotion. C'est son trip. Elle a décidé que ce serait comme ça pour elle. Pourquoi pas? C'est son choix. Mais
le ministre de l'Éducation va nous appeler demain. pour les gabardines et les talons.
Je sais pas quoi. Ça, c'est le seul truc qui me déçoit un peu. Ça,
non,
elle était là, les mains comme ça, là, les bras ballants à regarder et tout. J'ai dit, oh, vis un peu là. C'est un événement qui est extraordinaire.
Ouais, mais elle est comme ça. C'est son caractère.
J'ai le droit de dire ce genre de caractère là. Moi, ça me gave un peu quoi. Voilà.
Bon, dans quelques instants, Pierre veut réagir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as peu de chance qu'elle change.
Je vous précise. Aujourd'hui, il y avait trois matchs d'ailleurs. L'Angleterre a battu l'Écosse 2-1.
Pas là pour être sympa.
Le Brésil a battu la Jamaïque 3-0. C'était à Grenoble tout à l'heure. Et puis l'Italie, ils ont fait un match. Les Italiens ont fait un match. J'ai regardé cet après-midi. Elles étaient menées 1-0, totalement dominées. Elles ont réussi, mais un miracle total, à marquer deux buts, à gagner 2-1. Les Italiennes. Simone Rovira nous en reparlera peut-être tout à l'heure.
Ah, ça va lui faire du bien.
C'est un beau hold-up. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de rythme dans ces matchs. Hein.
Non.
C'est quand même la difficulté, même le haut niveau du foot féminin.
Bien sûr.
Ça va très doucement. On peut en reparler dans quelques instants.
Ça va pas au même rythme, quoi.
Allez, l'after continue. Ouais, foot féminin au programme et le reste de l'actu.
Il faut surtout pas le regarder comme ça.
Il faut pas le comparer. Bien sûr.
Il faut surtout pas le regarder comme ça.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Pierre Migros, Daniel Riolo, alors que Cristiano Ronaldo repart avec un nouveau trophée sous le bras, celui de la Ligue des Nations. Alors c'est une coupe assez, comment dirais-je, on dirait un tortellini géant. Voilà, donc qui est donné là.
Tortellini géant.
Oui, regarde. Oui. Tu la vois
oui.
Tu vois là.
Tu sais pas trop à quoi ça ressemble, un tortellini.
Tortellini.
Bah si, tortellini, c'est les petites pâtes comme ça, la tarabiscotée là.
Moi, j'aurais dit des pennées encastrées les unes dans les autres.
Absolument pas. Non, mais laissez tomber le truc des pâtes, ça ressemble pas à ça.
Des pâtes, ça va pas.
Non, oui, vous, c'est parce que vous bouffez des lustres crus, donc.
Ah, mais ça y est, monsieur spécialiste des pâtes.
Il va recevoir des paquets de lustres crus.
Non, alors tu vois, moi,
je veux un petit marché Terne. Il y a un traiteur italien, tu le connais peut-être.
Où ça?
Marché Terne.
Ah non.
Eh ben, vas-y un jour, tu verras. Il y a des très belles choses dans un petit traiteur italien.
Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour pour moi.
Ah, mais tu es où, Pierre?
Salut. Montréal, Canada.
Ah, quelle heure est à Montréal?
Superbe.
Ouais, il fait 28 degrés, grand soleil, et puis la France a gagné, donc, on est en
étape. T'avais le Grand Prix de F1 en plus, là.
On avait le Grand Prix de F1, c'est vrai que pour ça, c'était pas la préoccupation, dans cette ville, la Coupe du Monde de foot. Mais il y avait aussi la finale de NBA qui était très suivie au Canada, puisque en cas de victoire des Raptors de Toronto, ça serait la première victoire des Canadiens en NBA, pour la petite info. Voilà.
Exactement, c'est vrai, t'as raison. Alors tu voulais réagir là donc à l'ouverture de la Coupe du Monde féminine vendredi.
C'est ça, en fait, on a réussi à regarder le match de là-bas, c'était un peu compliqué mais on l'a fait. Et ce qui nous a frappé, c'est un peu ce qu'a dit Daniel ces dernières minutes là, c'est l'abnégation qu'ont eu les joueuses sur ce match. Il y a eu un de vos confrères qui avait dit que le match avait été ennuyant et chiant. Je reprends ces mots. Et nous, on n'a pas trouvé ça du tout mauvais. C'est vraiment l'impact qu'ont mis ces joueuses et l'envie qu'ils avaient de gagner. Et c'était vraiment super beau à voir. C'est vrai que le coach a été, enfin, la coach, je sais pas comment on dit, la coach était peut-être un petit peu. Elle manquait peut-être d'exprimer ses émotions, mais en tout cas, si elles ont cet état d'esprit durant toute la compétition, pourquoi pas essayer d'avoir une petite étoile aussi à la fin de la coupe. Ça serait top quand même, en deux ans de Coupe du Monde, ce serait pas mal pour l'équipe de France.
Ah oui, en effet. Bon, on en est encore loin, évidemment, c'est que le début. Bon, ça t'a plu, quoi, Pierre?
Ouais, ça m'a plu. Et même si ici on regarde pas trop, les Français, ils arrivent à suivre. Et c'est top. Même Roland Garros, pour l'info pour Daniel, on arrive à suivre aussi au Canada. Et les Canadiens ont beaucoup aimé la finale d'hier.
La finale de quoi, d'hier?
La finale d'aujourd'hui, pardon.
Ah oui, oui, parce que la finale d'hier, pour le coup, la finale femme, elle était vraiment pas terrible. Celle d'aujourd'hui, domination attendue de Nadal.
Merci Pierre, bonne journée à Montréal.
Ciao Pierre.
Merci, bye bye.
Salut, à bientôt. Alors dans l'actu du jour, il y a également la folie furieuse qui s'est emparée des politiques aujourd'hui concernant la Marseillaise. Vous avez suivi ça sans doute, messieurs. Donc la Marseillaise hier sifflée par le public turc. Bon, c'est pas vraiment une première que la Marseillaise soit sifflée ou que d'autres hymnes soient sifflés dans un stade à l'extérieur. Emmanuel Macron dit aujourd'hui qu'il a été choqué par tout ça. Marine Le Pen dit qu'il faut sanctionner la fédé turque. Alors la fédé française se fait savoir.
Et comment tu vas les sanctionner?
Je relaye.
Vas-y, finis.
Cloche-pied.
La fédé française.
Je vais leur dire quoi?
La fédé française signale aujourd'hui, tout à fait calmement, qu'elle a des relations très cordiales avec la fédération turque, qui d'ailleurs s'est excusée hier parce qu'il y a eu des sifflets, donc les officiels turcs. Pour la fédé, il n'y a pas de sujet en fait.
Parfois quand même.
Je voulais quand même en parler parce que cette dinguerie qui, je sais pas, il y a une dinguerie autour des hymnes depuis quelques temps là.
C'est comme
si maintenant il fallait que la vie s'arrête dès qu'il y a un hymne. Se détendre.
Non, ce que tu peux pas dire. Ça a quand même le fait que ce soit.
De tout temps, il y a eu des sifflets à l'extérieur.
Il y en a tout le temps, mais voilà, c'est dans un stade de foot, il y a la signification. Tu siffles l'hymne,
tu siffles l'adversaire.
Tu siffles ton adversaire.
Et bien sûr.
Oui. Voilà. C'est pas pour insulter le pays ou quoi que ce soit.
Après, ça arrive aussi que ce soit le cas.
C'est pas 42 000 personnes dans le stade qui sont politisées, qui sifflent une hymne parce que
un petit peu terni dans certains pays et qu'il y a peut-être une part de ça aussi. Non, faut pas
Daniel,
l'exclure.
Tu le sais très bien. En Turquie, moi, j'y ai joué il y a 20 ans et c'était avec le PSG, c'était pas avec l'équipe de France, mais c'était pareil. Ce sont des pays qui culturellement les stades sont très chauds.
Je suis d'accord.
T'as pas besoin de nous convaincre. Ils sifflent pas l'hymne national, ils sifflent quand tu rentres sur le terrain.
Non mais il y a quand même globalement.
Faut prendre un peu de recul et ne pas surdramatiser quelque chose comme ça.
Le fait national autour du foot prend des proportions
exagérées.
Existe depuis maintenant.
C'est dans la même veine quand les Brésiliens se mettent tous à pleurer et qu'on arrête leur hymne pour que tout le stade le reprenne pendant 5 minutes.
Ça fait déjà plus de 10 ans et c'est.
Moi je trouve que c'est too much.
Non mais toi tu peux considérer que le fait national n'a pas entré dans le sport. Il se trouve que. Excuse-moi, mais toi qui as couvert je ne sais combien de JO, tu sais très bien à quel point les politiques se mêlent
des JO,
tu sais très bien ce que veut dire le décompte des médailles, tu sais très bien ce que ça veut dire quand on accueille des sportifs dont on n'entend plus parler deux semaines après parce qu'ils ont gagné une médaille dans le tir à l'arc couché à genoux.
Qui ressemble à les Jeux d'honneur d'ailleurs, comme les champions du monde.
Donc, tu peux pas dire que le fait national soit étranger au sport.
Il n'y a pas de tir à l'arc couché.
tu peux le déplorer. Tu peux dire qu'on en fait trop là-dessus, mais je te rappelle qu'en 2014, c'est peut-être la Coupe du Monde, celle au Brésil, où l'hymne, on peut dire à ce moment-là, dans cette Coupe du Monde, l'hymne est devenu un spectacle.
C'est vrai.
Il fallait arriver 10 minutes avant les matchs parce que chaque équipe...
Les hymnes sud-américains.
Pas que. Il y avait, pour tous les pays, la volonté de montrer à quel point c'était la nation qui jouait.
C'est à tel point que si tu pleurais pas, limite, c'était « Ah bah lui, il pleure pas, lui ».
L'émotion passait par là. Chaque pays a envie de mettre en avant son identité nationale. Je vois pas.
Moi, il y a pas de quoi en faire un fromage.
Absolument. C'est ton point de vue, mais tu peux comprendre aussi que pour certaines personnes, ce soit important de mettre ça en avant.
Énormément
de pays, pour beaucoup de pays africains, pour beaucoup de pays sud-américains, et de plus en plus en Europe aussi.
En Serbie, je rappelle que Mihajlovic, sélectionneur, avait dit si moi j'en vois un qui chante pas l'hymne, je le vire.
Lui qui le dit.
Non mais sans aller dans ces extrêmes là,
moi
je peux même aller plus loin et vous dire que je préfère un stade comme on a eu hier soir chaud avec de l'ambiance pour regarder un match et même le jouer quand je l'ai joué qu'un stade où effectivement très aseptisé où il se passe rien. C'est ce qu'on aime quand on est joueur ou quand on est spectateur ou même téléspectateur, c'est des stades avec des ambiances comme ça. Alors oui, dans le meilleur des mondes, toutes les minutes de silence seraient respectées par tout le monde, il y aurait pas un con dans le stade qui sifflerait, mais il y en a toujours un petit peu. Oui, les hymnes ne seraient pas sifflés parce que c'est l'hymne de l'adversaire, arrêtons de politiser tout le temps les choses ou dramatiser toujours les choses.
Tu respectes juste ton invité parce que t'es invité quand tu joues à l'extérieur.
Tu peux pas siffler, t'es pas invité, t'es l'adversaire. Faut pas dramatiser. Juste un adversaire. Tu le fais savoir quand tu accueilles ton adversaire, tu le fais savoir que ça va être dur pour lui.
Mais après, ça me choque pas outre mesure.
Ouais, moi non plus.
Mais si les mecs sifflent pas, à mon avis, tu trouveras ça place aussi.
Tu lis des choses. Alors, faut arrêter de lire, je sais, mais tu lis des choses après ça. Mais honnêtement, les gens vont loin.
On s'en fout de ça, mais.
Dans quelques instants,
à l'inverse, t'aurais trouvé ça classe.
Stop. Oui, bah évidemment.
Oui.
T'aurais pas trouvé ça classe à l'inverse.
En fait, j'aurais même pas relevé.
Si, si. En fait, pour conclure, quand c'est respecté, c'est bien.
Voilà. Oui,
mais
voilà,
quand c'est pas respecté, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Enfin, je pense que c'est...
Voilà.
Allez, à tout de suite, c'est le drôle de l'âme. Juste une dernière info, vous dire que Rui Almeida est le nouvel entraîneur de Caen. Voilà. Donc il nous manque plus qu'un mien, là, et puis on est au complet.
C'est Jean Bretagne qui l'a choisi?
Hein? Ah, je crois pas.
Ah, merde.
On remarque qu'il vient de 3, alors peut-être que tout de même, il a eu son
mot. Ouais, il doit y avoir un truc, ouais.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot.